Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre Santé, un trésor. L'émission de Votre Santé, un trésor d'aujourd'hui va aborder le sport. Et le sport intéresse tout particulièrement la médecine. En effet, il existe une spécialité médicale dénommée la médecine du sport. Bien évidemment, il y a différents sports et différentes pratiques du sport. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux athlètes qui combattaient dans les jeux publics, les gymnastes et les athlètes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est M. Brice Lopez qui va nous en parler. Bonjour à vous, M. Lopez.
Bonjour.
Brice Lopez est spécialiste des sports historiques. Il a écrit un ouvrage « Des athlètes d'Olympie aux athlètes d'aujourd'hui », qui est le fruit de 30 années de recherche, de travail et de passion. Les sports de l'Antiquité sont comme l'héritage d'un aïeul que l'on découvrirait avec solennité, respect et des questions pleines la tête. Pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre démarche pour écrire ce livre ?
Alors bonjour à tous, donc Brice Lopez, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un expérimentateur ou archéo-expérimentateur. À l'origine, je viens du monde sportif, j'étais dans le sport de haut niveau.
Quel sport ?
Sport de combat, jiu-jitsu.
Ah.
Voilà. Donc, dans les années 90, en 1994, j'ai rencontré des chercheurs italiens qui voulaient travailler sur l'archéologie expérimentale de ces athlètes sportifs combattants des Jeux Olympiques.
Alors, archéologie expérimentale, dites-nous en deux mots.
Alors, l'archéologie expérimentale est un procédé scientifique qui est fait de protocoles, comme dans toutes les sciences dures, qui permet d'établir une hypothèse à partir de problématiques. Donc on a une problématique, une question qui se pose, on établit des hypothèses de réponse, et à partir des sources archéologiques et tout un ensemble de protocoles, de tests, d'expériences, on va tenter de répondre à l'hypothèse, savoir si elle est juste ou pas juste, on va avoir des informations, puis souvent on doit revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'échecs, et puis petit à petit, en fait, grâce à l'archéologie expérimentale, on va réduire le champ des possibilités techniques, des gestes possibles, puisque c'est ce qui nous intéressait pour les athlètes de l'Antiquité. Oui. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé dans les années 90, 94 exactement. Au début, en tant qu'amateur, parce que j'avais ma carrière en même temps de sportif. Et puis, au début des années 2000, j'ai créé une première structure associative, puis maintenant une entreprise spécialisée à la fois dans la partie recherche et puis dans la partie médiation, puisqu'on propose des médiations à partir de ces recherches.
D'accord. Moi, j'ai découvert l'archéologie expérimentale avec la préhistoire, justement avec la chasse, les modalités de chasse. Donc, on mettait en pratique ce qu'on mettait dans les musées, on les a montés et les gens ont chassé avec des flèches, etc., pour voir comment, si c'était possible, etc. Et c'est comme ça que j'ai connu que je me suis intéressé à ce type de...
Oui, l'archéologie expérimentale, notamment du propulseur préhistorique, et de la sagaie préhistorique est une des plus anciennes pratiques expérimentales en archéologie expérimentale, en archéologie du geste. Ce que nous, on a pu amener sous l'influence de Dario Battaglia en Italie, puis après avec ma structure en France, c'est vraiment de bien professionnaliser cette activité pour l'Antiquité et de la codifier, de la structurer, de la normaliser. Donc, archéologie expérimentale, archéologie du geste.
Bon, il y a le sport, il y a la gladiature. On en parlera dans une autre émission. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La guerre.
Alors, on ne peut pas expérimenter la guerre. Par contre, on peut expérimenter l'utilisation du pilum, l'arme de jet du soldat romain, parce que grâce à l'expérimentation, on peut démontrer certains éléments sur le pilum. Mais expérimenter la guerre, c'est trop large, c'est pas possible.
Très bien. Bon, et qu'est-ce que vous faites d'autre ?
Ben à part ça, à part ces recherches, après on fait de la médiation.
Oui.
Donc moi je dirige une structure de médiation qui s'appelle Arkeia et qui permet de proposer au large public des jeux, des activités.
Des spectacles
aussi, des spectacles, des
animations. Dans les arènes d'Arles.
Alors à l'amphithéâtre d'Arles, oui, régulièrement, à partir du mois d'avril jusqu'au...
Je vous remercie d'avoir relevé le mot arène avec amphithéâtre, je vous remercie.
Non, je suis désolé, c'est
vrai. Non, mais vous avez raison.
C'est un petit tic, chaque fois je dis amphithéâtre. En fait, j'utilise, même si le terme arena existe en latin et désigne la piste, mais c'est surtout pour faire la distinction avec ce qu'on utilise aujourd'hui comme arène taurine. Quand on est dans le milieu de la tauromachie, on utilise le terme arène. Voilà, donc nous on fait des animations dans l'amphithéâtre Arles, et puis après on a des médiations, des jeux, tout ça qui sont proposés, notamment au musée de la Romanité ici, ou même ici à l'amphithéâtre, à la boutique de l'amphithéâtre, on a nos jeux qui sont
des jeux, donc de jeux de société. Des jeux.
Voilà, pour donner un exemple très précis avec le sport, ouais. On a un jeu de cette famille sur le sport dans l'Antiquité. Ouais. Et ça permet, avec des petites cartes pédagogiques, donc ça permet aux enfants à la fois de jouer, ouais. Et puis aux parents de donner des informations, d'accord. pédagogiques.
Vous avez des objets aussi, des objets archéologiques que vous reproduisez, que vous vendez dans les musées.
C'est ça, voilà, ouais, on fait des expositions, voilà, tout un tas de médias.
Alors tout à l'heure, je voudrais vous demander ce que veut dire le mot sport et pourquoi on parle de sport, d'activité physique.
Waouh, alors c'est un large débat. Qui, pour l'histoire, pour les historiens, est assez, on va dire, conflictuel, puisque pour beaucoup d'historiens, il n'y a pas de sport avant l'invention du mot lui-même au XIXe siècle.
D'accord.
Et pour beaucoup, le sport dans l'Antiquité n'existe pas, ce qui n'est pas vrai. Je suis d'accord avec l'imminent Jean-Paul Thuillet qui dit que, évidemment, ça existe, puisque si on reprend la définition aujourd'hui du Larousse ou du Robert du sport, une activité physique et ou intellectuelle, codifiée, structurée, et à vocation d'entraînement et, ou de compétition ou de santé, bah, cette pratique oui. Existe dans l'Antiquité. Simplement, le mot sport n'existe pas. Puisqu'aujourd'hui, le mot « sport » est un mot très générique qui englobe toute une réalité. En fait, quand vous avez un match de football en Ligue 1 ouais. ou quand vous avez des enfants qui jouent au ouais. foot dans la cour de récréation, ils font bien du sport. Mais ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est de mettre tous les sports différents dans le mot général « sport mmh. ». L'activité physique, elle, c'est autre chose. Dès qu'on bouge, on fait le ménage. On oui, fait de l'activité physique. Physique. Et c'est ça qui est bon pour la santé. C'est plus ouais. l'activité physique que le sport. Que le sport on pourra ouais. en reparler. Et donc, moi, je m'intéresse à la fois au sport type compétition, type aujourd'hui sport de haut niveau ou sport compétitif, agonistique, on dirait pour l'Antiquité, et à la fois...
Agonistique.
Agonistique, c'est-à-dire d'opposition. C'est l'agone hein, dans l'Antiquité.
Le combat.
Le combat, l'affrontement, l'opposition. Plus largement, on parle de compétition, même si c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça pour le terme agone. Et donc, du coup, je m'intéresse à ces deux activités, enfin, ces deux choses, à la fois le sport et l'activité athlétique en tant que telle.
Très bien. Alors, je reviens du Mexique où j'ai apprécié les rituels liés au jeu de balle maya. C'est exceptionnel. Mais qui sont des rituels religieux, hein, en fait. En fait, il n'y avait pas de spectateur. C'était des rituels religieux dont le vainqueur a été sacrifié. Pensez-vous que ce genre de rituel a généré l'idée du sport dans l'Antiquité ? Est-ce qu'au départ, ça pouvait être des rituels religieux ?
Alors, je pense que tout étant sacré, depuis très 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 longtemps dans notre histoire et dans l'Antiquité grecque comme romaine, toute action est sacrée et ouais. liée à une divinité, un invisible, quelque chose qu'on pourrait appeler la religion, mais c'est beaucoup plus large que ça à mon avis. Ouais. Le sport ou l'activité physique est bien sûr relié à du religieux ou à du sacré, mais ce n'est pas le sacré qui crée le religieux. C'est plutôt pour moi pour honorer des dieux, pour honorer des morts. On va utiliser différents vecteurs et entre autres, on utilise le sport. Par exemple, si on prend les funérailles de Patrocle dans l'Iliade, on s'aperçoit que c'est le décès de Patrocle qui va initier les jeux. C'est pas les jeux qui initient ouais, le décès de Patrocle. Sûr, ouais. Et donc, c'est parce que on veut honorer ce personnage,
pour célébrer,
pour cet illustre guerrier, que pour le célébrer, on va demander, entre autres, à ses camarades et aux membres de sa communauté de s'affronter dans différentes activités athlétiques.
D'accord. Alors pour vous, la gladiature, dont on parle aussi animée, on a eu les jeux romains, est-elle un sport ou c'est quelque chose de différent ?
Alors oui, c'est un sport, mais pas dans les termes forcément auxquels on l'entend aujourd'hui. La gladiature est un sport, mais qui n'est pas compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est toute la difficulté pour comprendre la gladiature, qui est quand même quelque chose de très, très, très complexe et de très spécifique, même si ça existe avant et ça va durer un peu après, mais qui est très spécifique au Haut Empire romain. Donc en gros, à l'apogée de l'Empire du 1er au 3e siècle, on va dire, ou de moitié du 2e siècle de notre ère. La gladiature, à cette période-là, qui est répandue dans le monde entier, hein, pour le monde antique, on va dire.
Le monde romain.
Le monde méditerranéen, de toutes les rives de la Méditerranée jusqu'aux îles britanniques. On a une pratique qui est sportive, mais qui n'est pas compétitive. C'est-à-dire que les deux personnes qui s'affrontent dans un combat de gladiateurs sont de la même école. Ils se connaissent et vivent et travaillent ensemble. 100% des inscriptions archéologiques et des textes qui parlent du gladiateur, de son adversaire et de leur école respective à 100%, ils sont de la même école. Aujourd'hui, on ne connaît pas d'inscription qui nous dit un gladiateur de l'école de Nîmes a affronté un gladiateur de l'école d'Arles, un gladiateur de l'école de Rome a affronté... Non. Si vous regardez l'édictum de Pompéi, qui est très très connu, cette grande inscription rouge sur fond blanc, où on a la description d'un munus qui va être donné, les deux propriétaires d'école qui sont nommés, qui sont père et fils, en réalité, leurs gladiateurs sont loués par père. Il y a toujours le terme de paria. D'accord. Qui est mis ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, si vous êtes producteur d'un spectacle, vous allez louer 10, 15, 20 paires à un propriétaire d'école et ces gladiateurs combattent ensemble par pair. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que ce n'est pas un affrontement.
Oui, comme deux équipes de foot, de deux villes actuellement.
Ou même de boxeurs.
D'accord. Alors, vous avez déjà répondu un peu à cette question, mais depuis quelle date parle-t-on de sport? Vous avez dit 19e siècle, mais surtout d'athlètes.
Alors, en fait, le terme de sport, c'est très récent. Hein, le terme lui-même de sport, venant de desport, tout le monde connaît l'étymologie du mot sport, est très récente. Mais en réalité, la réalité factuelle de la pratique sportive, elle date de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'on a déjà 2500 ans avant notre ère, des pratiques athlétiques qu'on peut désigner comme sport parce qu'elles sont institutionnalisées, codifiées, structurées, entraînées, et elles ont des vertus soit physique, soit de santé, soit de compétition. Donc, le sport en lui-même existe depuis, on va dire, au moins 5000 ans, mais le terme, lui, qu'il désigne de façon générique, n'existe que depuis quelques centaines d'années. Ah. En fait, il faut bien penser que dans l'Antiquité, les gens ne cherchent pas à avoir un terme générique pour désigner le sport. Ils désignent certes... Par exemple, pour les Romains, vous avez le munus, le combat de gladiateurs, un mot pour désigner le combat gladiateur, parce que c'est une offrande, parce que c'est du sport, mais c'est avant tout une offrande, un rituel. Et vous avez l'agone pour désigner les Jeux Olympiques.
D'accord.
Donc, on va utiliser différents termes en fonction de l'objectif de la pratique athlétique ou sportive.
Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le sport tel qu'on le connaît actuellement est apparu?
Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, j'ai l'habitude.
On n'est pas là pour avoir des amis, on est là pour donner que vous donniez votre opinion.
Pour moi, le sport tel qu'on le pratique aujourd'hui est le sport qu'on appellerait capitalistique ou capitaliste. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il naît avec l'émergence du monde capitaliste, industriel, dans l'Angleterre du 19e siècle, et avec les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'on mesure, on chronomètre, on calibre.
D'accord.
Et ça va impliquer une pratique sportive particulière. Dès qu'on commence à réguler, à pratiquer quelque chose où on va compter les mètres et plus simplement la victoire, on va compter celui qui va le plus vite sur 100 mètres.
Ouais.
On doit le chronométrer. Alors aujourd'hui, il gagne avec 11 secondes. Demain, il voudra gagner avec 10. Et on va pouvoir s'entraîner sur ce calibre de 10.
D'accord.
Si vous n'avez plus ce calibre-là, ne serait-ce que pour l'entraînement, vous ne pouvez plus vous entraîner de la même manière. Vous ne pouvez plus, dans votre tête, pratiquer de la même manière. Si on ne mesure plus les sauts, comment on sait qu'on progresse? Comment on sait qu'on travaille? On ne travaille plus de la même manière. Et donc, on va avoir une approche très capitaliste du sport et qui va aussi, et on le voit très très bien, notamment avec le foot, qui va aussi aller avec l'argent.
Bien sûr.
On voit très bien toutes les contraintes qu'a eu Pierre de Coubertin au moment des Jeux Olympiques, sport amateur, sport professionnel, et on a connu ça. Et donc, du coup, notre pratique sportive aujourd'hui, elle est, à mon sens, capitaliste, c'est-à-dire réglée par ça.
Et alors, quel a été le premier sport reconnu comme tel que vous l'avez défini?
Si on parle dans l'Antiquité,
non,
aujourd'hui...
Moderne, oui.
Moderne. C'est difficile de dire qu'un sport va sortir de l'autre. On a la boxe, qui est une pratique ancienne et qui fait partie des sports codifiés, structurés les plus anciens dans le monde anglo-saxon. Mais on va avoir aussi le foot, qui, quand on parle de sport d'équipe et quand on parle de sport de masse, le foot étant le sport par excellence de notre société, c'est une pratique sportive qui est très ancienne et qui est très... vite structuré comme sport, et on va avoir un foot des classes populaires et un foot de l'aristocratie, et puis petit à petit vont se mettre en place les compétitions. Les compétitions de foot sont très très anciennes. En Angleterre, on a des choses qui durent plus d'un siècle.
Je vous propose une trêve musicale avec l'hymne olympique.
Oh,
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui M. Brice Lopez qui nous parle des athlètes d'Olympie aux athlètes d'aujourd'hui. Quelles sont les différences entre les athlètes d'Olympie et les athlètes d'aujourd'hui ?
Alors déjà, les athlètes d'Olympie, c'est un terme très large qui désigne des athlètes qui vont concourir sur le stade d'Olympie et qui vont concourir pendant 1200 ans. Donc il faut bien imaginer que pendant 1200 ans dans l'Antiquité, ces athlètes vont être différents.
Il y a une différence, c'est qu'ils vont changer de
exactement,
de technique,
ils vont changer de
statut,
voilà, de statut surtout. À l'origine, je vais schématiser pour aller vite, à l'origine des Jeux Olympiques, on est face à plutôt de la haute aristocratie, citoyen grec, homme, qui pratique le sport comme moyen de s'élever vers les dieux, de ritualiser, de se mettre en spectacle, de se mettre en scène comme ils vont faire du théâtre. Puis, au fil des siècles, les choses vont évoluer. On va avoir, aux alentours du 4e siècle avant notre ère, l'apparition des femmes. Et puis, de l'aristocratie de plus en plus basse, de plus en plus proche du citoyen lambda.
Moins haute,
voilà. Et puis, finalement, avec l'arrivée du monde romain, au 2e, 1er siècle avant notre ère, qui va dominer la Méditerranée, on va avoir des esclaves qui vont devenir petit à petit les principaux athlètes antiques et qui vont être professionnels, qui eux, seront rémunérés pour ça. Donc en fait, on retrouve dans l'Antiquité, si on prend l'ensemble des 1200 ans des Jeux Olympiques antiques, on retrouve finalement le panel d'athlètes qu'on va avoir depuis la création des Jeux Olympiques modernes. Puisque Coubertin crée les Jeux Olympiques modernes, il s'adresse principalement à sa classe, qui est plutôt une classe aristocratique, de gens, les gentlemen, qui pratiquent le sport amateur pour le bien-être du sport, pour le bien-être du corps. Il le veut un peu pédagogique aussi, hein, puisqu'il s'intéresse beaucoup à cette transmission pédagogique, évidemment, des hommes et évidemment de l'aristocratie. Mais petit à petit, la force et le pouvoir, l'attraction sportive, l'attraction de la compétition, l'attraction du fait athlétique va attirer les femmes, bien sûr, qui sont l'égal de l'homme, et puis toutes les couches de la population. Donc on a concentré sur, on va dire, un siècle et demi de sport moderne, ce qu'on a eu aussi pendant 1200 ans de sport antique.
Et alors maintenant, il y a des professionnels qui sont aux Jeux Olympiques, alors qu'au départ, c'était justement des athlètes non professionnels.
Exactement.
Et alors, quel est l'entraînement actuel des athlètes ? En fait, tout le monde le sait, mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions ? Enfin, quelques précisions. C'est devenu vraiment une médecine à part, une vie à part.
Alors,
il faut faire une émission que pour ça.
Oui, il faudrait même plusieurs émissions, je pense, que pour ça. Mais évidemment que le grand public ne s'imagine pas les exigences que demande le sport de haut niveau aujourd'hui. Les sportifs de haut niveau doivent consacrer leur vie à un résultat qui va peut-être durer 10 secondes s'ils font le 100 mètres, s'ils sont bons, ou moins. Et c'est des heures et des heures d'entraînement, calculer ce qu'on mange, sa diététique, faire attention, on peut pas sortir comme on veut, on peut pas faire d'autres pratiques sportives. Par exemple, un sportif de haut niveau aujourd'hui qui est dans un club de foot, qui a un contrat, il ne peut pas faire du saut en parachute comme il veut. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit suivre des protocoles précis, être exigeant et avoir un suivi médical le commun des mortels n'a pas. Ils ont accès...
C'est une remarque que je voulais faire. Il y a la médecine du sport de monsieur et madame Lambda, médecin du sport, cabinet du sport, parce qu'il fait un peu de course, il a une tendinite, etc. Et puis, il y a la médecine de sport de compétition, où là, c'est l'hyper spécialité médicale, où on rentre dans une autre dimension. On le voit en physiopathologie, en nutrition, en thérapeutique, en prise en charge, en psychologie, en préparation.
Préparation mentale.
J'ai préparé des sportifs de haut niveau en sophrologie, en préparation psychologique. Bon, on me faisait appel parce qu'à l'époque, mais ça s'est développé. J'étais un des premiers à le faire, notamment sur des gens qui tiraient au fusil la poudre noire. J'ai fait pas mal de choses, des rasters que j'ai préparés en sophrologie.
C'est vraiment la pratique sportive, la pratique médicale dans le monde sport de haut niveau, c'est un petit peu comme la Formule 1 pour l'automobile.
Va
avoir un laboratoire...
C'est pas la même voiture, quoi.
Voilà, on va avoir un laboratoire incroyable au niveau de la médecine des sportifs de haut niveau, Et ça peut se retrouver ensuite dans le grand public. C'est ça qui est intéressant parce que ça permet de faire progresser après la médecine grand public.
Alors en tant que médecin, je pose la question, cet entraînement de haut niveau n'est-il pas dangereux à votre avis pour la santé des athlètes ?
Ben, oui et non, je vais vous faire une réponse qu'on dit de Normand, oui et non, mais bien sûr que le sport a un certain niveau et pas forcément le meilleur allié de la santé et du corps. Vous le savez en tant que médecin, moi qui ai fait de la compétition en sport de combat assez haut niveau, j'ai des fractures à l'épaule, au pouce, au cinquième méta. Voilà, donc forcément, un athlète qui prend des coups, un boxeur qui prend des coups, un gymnaste qui doit mettre ses articulations à rude épreuve, une danseuse sur ses pointes, etc., forcément, ce n'est pas le meilleur allié de la santé. Maintenant, entre ça et être purement sédentaire,
entre être sédentaire, avoir une activité physique, comme vous dites, c'est-à-dire marcher, faire son jardin, etc., faire du sport, je dirais, de monsieur, de madame, tout le monde, et puis être un athlète de haut niveau, ça fait quand même... Vous parliez des danseuses, justement, j'ai lu des articles sur la déformation des pieds des danseuses, c'est apocalyptique.
Ah mais bien sûr, c'est pour ça que je vous en parle.
Les micro-traumatismes cérébraux des boxeurs, alors on se rend bien compte, avec Mohamed Ali notamment, il a fait quand même une pathologie neurologique importante, et là, avec l'histoire du football américain, justement, ce sont de graves maladies, quoi, hein, c'est important.
Bien sûr, on a des conséquences graves quand on met son corps... qu'on pousse son corps au-delà des limites. On le sait, aujourd'hui, c'est avéré de façon certaine. Maintenant, c'est toujours une question d'équilibre. Pour autant, il faut dire qu'il faut quand même bouger, il faut quand même faire de l'activité physique, il faut quand même faire du sport. Il faut être capable de faire la part des choses.
Voilà. Oui, entre l'activité physique, le sport de tous les jours... Et le sport des athlètes de haut niveau, c'est des choses...
C'est ça, c'est le problème des athlètes de haut niveau, c'est qu'ils sont tout le temps, pendant toute leur carrière, à l'entraînement et en compétition, borderline, au bord de la rupture, parce que c'est le seul moyen pour aller performer. Et c'est un petit peu la contrainte de ce sport dont je vous parlais, capitalistique, parce que vu qu'on mesure tout, vu qu'on calibre tout, eh ben forcément, on a des repères qui permettent de perfectionner. Si vous changez la règle, et que vous ne prenez en compte que la victoire, et peu importe la performance, je dis une bêtise, mais le saut en longueur, qu'on le fasse à 12 mètres, ou à 8 mètres, ou à 5 mètres, ou à 1 mètre, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de gagner. Vous voyez, il y a une approche différente.
Oui. Et, non, mais vous l'avez bien expliqué, je crois que je vous avez appuyé sur quelque chose qu'on n'avait pas...
Je vous prends l'exemple du saut en longueur parce que c'est caractéristique. On sait par exemple que pour le saut en longueur, un élément factuel de performance est la vitesse au moment de l'envol. Et on voit très bien dans les compétitions d'athlétisme que les athlètes aujourd'hui mordent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sauts qui ne sont pas comptés parce que la planche d'appel est trop étroite. Oui. On n'a pas décidé de faire autrement pour... Non, on a décidé d'élargir la planche d'appel, d'utiliser de l'intelligence artificielle et de dire, voilà, vous aurez une planche d'appel de 50 cm, on prendra le dernier appui sur la planche d'appel et du coup, ils pourront courir plus vite. Oui. Mais... Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on pousse encore l'athlète à performer sur la vitesse, à calculer sa vitesse et à calculer sa vitesse au moment de la planche d'appel. Et donc, du coup, on va créer des contraintes supplémentaires. Et continuer à créer des contraintes sur le corps de l'athlète.
Alors, pensez-vous, vous qui êtes spécialiste, que l'entraînement et les résultats des athlètes actuels sont arrivés à leur maximum où il va y avoir encore des progrès et on pourra aller courir plus vite, sauter plus haut, où on arrive à une limite ?
Je ne pense pas qu'on ait une limite. Par contre, je pense que mathématiquement, la courbe de performance est sur, on va dire, c'est une forme de plateau. Quoi. Vous voilà, voyez, c'est parabolique. On arrive à un plateau, on continuera à progresser, mais moins importante, l'angle de progression, l'amplitude de progression sera moins importante qu'elle n'a été sur le siècle qu'on vient de passer, parce qu'on a optimiser énormément de choses. Et on le voit, hein, le saut en longueur ou le saut en hauteur, c'est vraiment très intéressant parce que là, on a de la force et de la technique pure, de la vitesse. On a des éléments scientifiques extrêmement précis et on voit qu'on arrive à des limites et qu'on est obligé de changer un petit peu certains éléments du règlement, notamment au saut en longueur, pour pouvoir performer plus. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas battu. Je crois que le triple saut, on l'a pas battu depuis 20 ans. Là, je me rappelle plus du.
Oui, donc on arrive à une certaine limite.
On arrive à une certaine limite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne progressera pas. Ça veut dire que les progressions vont être de plus en plus longues. Quand il y a un élément extérieur comme à la perche, on va performer sur la perche, mais bon, ça va créer des contraintes supplémentaires, encore une fois, sur l'athlète. Les perches seront de plus en plus dures, de plus en plus énergiques, elles vont renvoyer de plus en plus fort, et donc l'athlète devra être de plus en plus fort au niveau du haut du corps, capable de plier la perche, etc. On voit qu'il y a quand même des contraintes, mais on continuera à progresser en changeant légèrement les règles.
Bon, les Jeux Olympiques ont de beaux jours devant eux, alors. Eh bien, Brice Lopez, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre passion aussi, pour le sport, la compétition, ses techniques, ainsi que votre travail portant sur les athlètes d'Olympie aux athlètes d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Brice Lopez de nous citer quelques livres sur son sujet d'étude. Rappelons que vous avez écrit un livre des athlètes d'Olympie aux athlètes d'aujourd'hui aux éditions Acta. Donc vous vous occupez, en fait, c'est votre maison d'édition. C'est ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres joies sur la table, sur la gladiature ? On en reparlera. Est-ce que vous avez d'autres livres ?
Alors, non, je n'en ai pas d'autres sur ce sujet.
Des livres qui vous ont marqué.
Mais après...
Ou que les auditeurs peuvent lire.
Je vous invite à lire Galien.
Oui. Ah oui.
Un des premiers médecins du sport,
oui,
on va dire,
médecin
du sport, qui est très intéressant et qui a des anecdotes intéressantes. Et ce que j'ai aimé chez Galien, c'est qu'il y a ce questionnement de l'athlète professionnel et du sportif du quotidien.
Je vais vous demander de nous rappeler qui est Galien. Moi, je sais.
Alors, Galien est un médecin grec à l'époque romaine. Il a été médecin de Marc Aurèle, notamment, et médecin des gladiateurs pour l'amphithéâtre de Pergame, en Asie mineure.
Il s'est occupé des gladiateurs et il essayait de soigner au mieux les gladiateurs. Eh bien, merci à vous,
merci.
Monsieur Lopez. Merci d'avoir partagé ce moment sur le sport avec nous. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.